Chapitre 17. Henry James avait connu une vieille duchesse à la perversité sans égale. Quand elle rentrait à Londres pour la saison mondaine, après avoir passé quelques mois à Venise, elle avait l'habitude de donner un dîner digne des Borgia. Conviée à l'un de ses autos d'affaires afin de compléter le contingent de célibataires à table et peut-être aussi pour jouer le rôle d'observateur des cruels rites sacrificiels qui allaient être pratiqués ce soir-là, James y avait assisté par pure curiosité, bien qu'il eût été prévenu depuis longtemps de la méchanceté de la duchesse. Le tour d'écrou mondain, selon l'image qui lui était venue, consistait en la réunion de 5 couples dont 4 des femmes avaient une liaison illicite avec pas moins de 5 des messieurs présents. Parmi les invités figuraient en outre quelques célibataires, des hommes, ainsi que 5 jeunes femmes qui toutes, comme le savait fort bien la duchesse, avaient ou avaient eu une aventure désastreuse avec certains des convives. Si la tension planait sur ce dîner, Henry James s'aperçut qu'il était beaucoup plus nerveux en ce dimanche 26 mars où les Hay, sans doute le couple le moins malveillant qu'il eût jamais rencontré, recevaient leur vieil ami Harry, Monsieur Sigerson, Clarence King et l'émissaire norvégien accompagné de sa femme et de leur fille. Monsieur Elmer Halvorsen Volbeck n'était pas l'ambassadeur du Royaume de Scandinavie aux États-Unis pour la simple raison que le roi Oscar II préférait avoir en permanence 2 représentants à Washington, l'un pour la Suède, l'autre pour la Norvège, nominalement unis, mais encore fiers de leurs origines distinctes. Pour l'heure, l'émissaire suédois était l'ambassadeur officiel du roi. Dans 2 ans, ce serait le tour de M. Volbeck. James lui donna dans les 60 ans, mais sa femme, Linnea, s'il avait bien saisi le prénom pendant les présentations, devait avoir 20 ans de moins. Leur fille, Oda, qui frôlait la 20aine, passait pour la débutante la plus recherchée du quartier des ambassades. Tous 3 parlaient couramment anglais. Quand Sigerson fut présenté à M. Volbeck, James fut déçu, ou peut-être soulagé, il avait du mal à interpréter ses émotions sur l'instant, de voir les 2 hommes s'incliner de concert en claquant les talons, mais se saluer en anglais. La conversation s'engagea facilement, John et Clara Hay maîtrisant l'art de faire participer tous les convives. Les Volbeck se dirent impressionnés par le faste de l'investiture de Grover Cleveland quelques semaines plus tôt et impatients d'aller visiter l'exposition universelle de Chicago en mai avant de rentrer en Norvège pour l'été. Mademoiselle Volbeck, de son côté, semblait avoir bien profité des nombreux bals organisés en ville à l'occasion de l'investiture.
Oda est à un âge où tous les bals sont des occasions de rencontrer des jeunes gens à marier,
dit Madame Volbeck avec son doux accent scandinave.
« Maman !»
se récria Oda en piquant un phare.
« Eh bien, c'est la vérité, non ?»
commenta son père en riant. L'émissaire Volbeck s'essuya délicatement les lèvres avec sa serviette.
« Ma petite fille se trouvera bientôt en mari. »
Alors qu'Oda rougissait de plus belle, Clara Hay sourit et dit
« Eh bien, nous avons à cette table 2 des célibataires les plus convoités d'Amérique, Excellence. »
Comme M. Volbeck haussait un sourcil en signe d'interrogation poli, Clara poursuivit.
« Monsieur James et M. King sont considérés depuis longtemps par les jeunes filles comme des trophées à conquérir. Est-ce vrai, M. James ? M. King ?»
demanda Mme Volbeck d'un ton qui semblait intéressé. Henry James détestait la tournure prise par la conversation. Il avait toujours détesté qu'on le taquine sur le sujet. Ça l'agaçait depuis des années, mais au moins connaissait-il sa réplique par cœur. Esquissant un sourire, il inclina très légèrement la tête comme s'il était adoubé par la reine.
Hélas, je frise la 50aine et à cet âge, un célibataire est moins convoité qu'endurci. Il paraît presque certain désormais que le seul mariage que je connaîtrai dans cette vie est celui qui m'unit à mon art.
En voyant une lueur de confusion dans les jolis yeux de Madame Volbeck, il s'expliqua.
Je parlais de mes écrits. Puisque je ne suis qu'un pauvre scribouillard et dramaturge. Monsieur James, comme je crois vous l'avoir expliqué, mes chéris, est un des plus grands écrivains américains vivants,
dit Monsieur Volbeck. James inclina de nouveau la tête en réponse au compliment et sourit.
À en juger par les ventes de mes livres ces dernières années, mon éditeur et même mon lectorat, hélas, risqueraient de ne pas être d'accord avec vous, monsieur. Mais je vous remercie pour vos paroles généreuses.
Et vous, Monsieur King ?
Demanda Madame Volbeck, se penchant pour mieux voir l'explorateur. L'épouse du diplomate était encore assez jeune pour paraître séduisante quand elle prenait cet air aguicheur.
Êtes-vous également marié à votre profession ?
Clarence King leva son verre de vin.
Pas le moins du monde, madame. Mon problème, c'est qu'on ne cesse de me présenter les plus ravissantes jeunes femmes de New York, de Boston et de Washington, parmi lesquelles figure bien sûr votre belle Odin.
King leva plus haut son verre et but, tandis que la pauvre mademoiselle Volbeck se mettait à rougir intensément.
Mais, comme le dit si bien notre ami Henry, hélas, toutes les beautés américaines, anglaises et norvégiennes ont le teint merveilleusement pâle, alors qu'une étrange inclination de ma nature fait des femmes des mers du Sud l'incarnation et le summum de la beauté féminine à mes yeux.
John Hay se mit à rire et la plupart des convives l'imitèrent.
Êtes-vous allé dans les mers du Sud, Monsieur King ?
Demanda Madame Volbeck.
Hélas, non, répondit King avec un sourire malicieux. Mais Henry Adams et John Lafargue ont passé 2 ans à voyager d'île en île dans le Pacifique et m'ont envoyé de longues lettres décrivant la beauté brune des femmes de là-bas.
Il vida son verre. John Hay fit signe à un domestique et tous les verres furent aussitôt remplis.
Clarence est allé à Cuba et dans les Caraïbes, dit-il. Et au Mexique, en Amérique centrale, et un peu plus au sud, et pourtant, hélas.
Il baissa la tête en feignant la défaite.
Ah, Monsieur King, pour qu'il trouve enfin sa beauté brune,
déclara la jeune Oda en levant son verre. Une fois qu'ils eurent tous ri de bon cœur, ils burent à la santé de King. Les entrées furent servies. James se sentait agité et l'attente de voir Ian Sigerson démasqué lui coupait l'appétit. Il s'aperçut aussi qu'il tendait son verre de vin bien plus souvent qu'il n'en avait l'habitude au dîner. L'attention générale se concentra de nouveau sur Clarence King et les hommes, ainsi que Clara Hay, se relayèrent pour tenter d'expliquer à Madame Volbeck et à sa fille la grande escroquerie au diamant de 1872 et le rôle de héros qu'avait joué King dans l'épisode. Monsieur Volbeck n'avait pas besoin de cours de rattrapage puisque son oncle à New York à l'époque avait été très tenté d'investir dans la miraculeuse montagne de diamants de l'ouest du Colorado. King avait réussi à localiser ladite montagne et à prouver que l'affaire était une mystification. Les diamants, rubis et autres pierres précieuses qui y avaient été découverts étaient certes des vrais, et il y en avait pour l'équivalent de 30 000 dollars, mais ils étaient de mauvaise qualité et achetés à Londres par les hommes qui les avaient ensuite plantés dans la Mesa. Clarence King avait évité à l'oncle d'Alvard, ainsi qu'à des dizaines d'investisseurs potentiels, de perdre leur chemise dans l'escroquerie.
Mais Monsieur Tiffany de New York n'avait-il pas certifié que les diamants trouvés dans la montagne valaient des fortunes ?
Demanda Madame Volbeck.
Si,
acquiesça King.
Mais le joaillier et ses associés n'y connaissaient rien en pierre non taillée.
Quand vous avez trouvé la montagne, Monsieur King ?
S'enquit Mademoiselle Volbeck avec son délicieux accent.
Comment dit-on en anglais ? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille à propos des pierres ?
King partit d'un tel éclat de rire que les autres l'imitèrent sans raison.
« Ma chère mademoiselle, le jour où nous sommes arrivés à la prétendue montagne de diamants, au début du mois de novembre, il faisait si froid que notre whisky avait gelé dans les bouteilles. Nous sommes descendus de nos mules sur une bande de grès ferrugineux d'environ 30 mètres de long, et nous ne pouvions pas poser la semelle de nos bottes par terre sans déplacer un diamant ou une autre pierre précieuse. » Alors, au début, nous ne savions plus où donner de la tête. Nous courions partout comme des gamins à Noël en ramassant des pierres à toute vitesse. Puis ma formation scientifique a repris le dessus. Je me suis aperçu que les précieux cailloux ne se trouvaient jamais dans des endroits où la terre n'avait pas été retournée. Nous découvrions, par exemple, des rubis dans des fourmilières, mais seulement dans celles pourvues de 2 trous, l'un par lequel les fourmis entraient et sortaient, et un autre plus petit de l'autre côté. J'ai aussitôt compris que quelqu'un avait poussé les rubis dedans avec un bâton. On ne trouve jamais de diamants, de rubis et d'autres pierres précieuses en telle quantité en un même lieu. Et pour le prouver à tous ceux qui, à San Francisco et ailleurs, étaient si impatients d'acheter des parts de la compagnie minière frauduleuse fondée par les escrocs, mes amis et moi avons passé 2 jours à creuser une tranchée de 1 mètre de long et de 3 mètres de profondeur au fond d'un ravin où, s'il s'était véritablement agi d'une montagne de diamants, on aurait dû en trouver des centaines sous la surface. Or, il n'y avait rien.
John Hay leva son verre de vin à 2 mains.
Et c'est ainsi que le jeune Clarence King passa les 3 jours et 3 nuits suivants en route pour San Francisco, non seulement pour éviter que des investisseurs perdent des millions, mais aussi pour empêcher les spéculateurs de se faire beaucoup d'argent en pratiquant des ventes de parts à découvert. Et leva son verre. Buvons à un honnête homme. À un honnête homme, répétèrent les autres en l'imitant. Même sous son bronzage, on voyait que King rougissait.
À présent, dit son Excellence l'émissaire Volbeck, une fois le plat de résistance servi,
je vais vous demander à tous d'excuser ma grossièreté, mais j'aimerais m'adresser à mon compatriote, Monsieur Sigurdsson, dans notre langue maternelle.
Faites donc !
S'écria Hay. Henry James reposa son verre et s'aperçut que sa main tremblait. Monsieur Volbeck se pencha vers Sigurdsson Holmes et lâcha une volée de norvégiens mélodieux. Sigurdsson parut sur le point de parler, puis s'abstint. Volbeck ajouta alors un autre paragraphe. Sherlock Holmes resta encore silencieux. Le cœur de James battait comme s'il voulait s'échapper de sa cage thoracique. Dans quelques secondes, tout le monde saurait que l'homme qu'il avait introduit dans le cercle familial de ses chers amis les Hay était un imposteur, et il apparaîtrait tout aussi évident qu'il était au courant de l'imposture. Mais serait-ce vraiment si évident? James considéra ce moment de suspense comme s'il s'agissait d'une scène d'un de ses romans ou d'une de ses nouvelles. Comment son personnage devrait-il réagir à la révélation imminente? Une escroquerie bien plus dommageable aux personnes autour de cette table que ne l'avait été celle des diamants de King. James pourrait feindre la surprise et la colère que les autres ne manqueraient pas de ressentir, en particulier John et Clara. Mais Holmes risquait de tout révéler et de dévoiler la complicité de James. L'écrivain devrait alors choisir entre traiter Sigurdsson de menteur, rendez-vous à l'aube pour régler ça au pistolet, ou présenter ses plates excuses avec la dignité qui lui resterait, annoncer qu'il quittait Washington le soir même et prendre congé après avoir adressé à tous un salut contrit. James fut saisi de nausées. Il était sûr que Holmes justifierait leur stratagème par sa volonté de résoudre le mystère du suicide de Clover Adams, ce qui ne manquerait pas de provoquer un nouveau séisme chez les Hay. Et encore, ce ne serait rien comparé au sentiment de trahison qu'éprouverait Henry Adams lorsqu'il serait mis au courant à son retour la semaine suivante. La mort de Clover avait causé un tel traumatisme à son ami historien qu'il n'avait jamais mentionné la date ou les détails du drame depuis qu'il s'était produit 7 ans plus tôt. Sous l'effet de la nausée et de l'excès de vin, la table et les convives silencieux lui semblaient monter et descendre devant lui. Il posa les deux mains à plat sur la nappe blanche et appuya fort pour tenter de calmer son vertige. Puis Holmes Sigurdsson se mit à parler. Aux oreilles de James, ça sonnait norvégien. Et si Holmes commença par parler lentement, son débit s'accéléra jusqu'à devenir un torrent. Quand il marqua une pause, M. Volbeck lui posa une rapide question dans un norvégien qu'il était tout autant, et Sigurdsson répondit à la même cadence, en de longs paragraphes que Sherlock Holmes n'aurait pas pu apprendre en quelques brèves leçons. James observa Madame Volbeck et sa fille, mais leur visage ne montrait que de l'intérêt, pas d'étonnement ni d'incrédulité. L'émissaire Volbeck parut poser une autre question. L'explorateur norvégien, Sherlock Holmes, rit et répondit dans la langue rapide et fluide du pays prétendument natal de Jan Sigurdsson. En tant qu'écrivain, Henry James se sentait souvent, le plus souvent à la vérité, détaché des événements et des conversations qui se déroulaient autour de lui. Et s'il s'efforçait d'être un homme à qui rien n'échappait, le monde lui apparaissait souvent plus comme un modèle pour la fiction qu'une scène à habiter. Ce dimanche soir de mars, il eut même le sentiment d'être sorti de son corps et de flotter au-dessus de la table, tel un fantôme observant les vivants qui s'exprimaient dans une langue indéchiffrable. Ou tel un spectateur au théâtre, peut-être, comme lui quand il regardait une troupe répétée ou jouait les tirades de sa pièce L'Américain. Il était alors détaché, critique, peu convaincu, mais curieusement enchanté. Sauf qu'en cet instant, il se sentait convaincu et horrifié. L'émissaire Elmer Halvorsen Volbeck se tourna vers les Hay, King et James.
Une fois encore, je vous prie d'excuser cette impolitesse et je vous remercie pour votre patience et votre bienveillante indulgence. Mais parler à M. Sigurdsson dans notre langue m'a persuadé d'une chose que j'avais seulement devinée avant de l'entendre s'exprimer. La réalité n'est pas exactement telle qu'elle a été présentée, s'agissant de M. Sigurdsson.
James en eut le souffle coupé. La tentative de Holmes de parler norvégien n'avait donc pas été convaincante. Comment aurait-il pu en être autrement? Un Anglais ne peut pas abuser de la sorte d'un Norvégien. James avait seulement été désorienté par la tentative osée de Holmes.
Nous avions lu et entendu dire que M. Sigerson était un explorateur norvégien,
poursuivit Elmer Halvorsen Volbeck d'un ton contrit.
Mais après avoir parlé avec lui pendant quelques minutes seulement, ma famille et moi nous sommes rendus compte que M. Sigerson est sans doute l'explorateur vivant le plus éminent de notre pays. Les journaux londoniens et américains avaient évoqué les expéditions de M. Sigerson dans certaines chaînes de montagnes en Inde. Mais nous ne mesurions pas à quel point ces explorations au Tibet de ces deux dernières années étaient uniques et spectaculaires. De plus, M. Sigerson est comme moi originaire de Leighton, une toute petite ville du comté d'Hedmark. Elle ne compte pas plus de 100 habitants, et il a connu mon cousin Knut, qui vit toujours là-bas.
Holmes dit quelques mots en norvégien.
Monsieur Volbeck rit.
Ah oui, et ma tante Oda, dont nous avons donné le prénom à notre fille. Quelle incroyable coïncidence,
observa John Hay.
Le monde est petit, comme je le dis toujours,
renchérit Clara. James craignit d'être en pleine crise cardiaque. Il avait la poitrine si oppressée qu'il dut se forcer à inspirer et expirer.
J'ai interrogé M. Sigerson sur son nom de famille,
poursuivit Volbeck,
puisque Sigerson n'est pas un patronyme courant en Norvège, du moins pas avec cette orthographe. Comme je le supposais et comme il me l'a confirmé, sa famille s'appelait Sigurdsson, mais son grand-père avait épousé une Allemande et vécu de longues années en Angleterre. L'orthographe avait été changée par commodité à cette période et jamais retransformée.
Le cerveau de Henry James était en ébullition. Manifestement, Jan Sigerson ou Sigurdsson n'était pas le détective privé incarnant un explorateur norvégien, mais un Norvégien authentique, explorateur authentique, qui, pour des raisons sans doute folles, prétendait être le personnage sûrement fictionnel connu sous le nom de Sherlock Holmes. Si c'est le cas, à qui ai-je été présenté il y a 3 ans à la réception de charité de Madame O'Connor? L'hypothèse la plus logique, la seule hypothèse logique, était qu'il s'agissait de Jan Sigerson réalisant son fantasme d'incarner le détective fictionnel. Sauf que les aventures de Sherlock Holmes n'avaient pas encore été publiées dans le Strand en 1889. Certes, songea James, mais il avait le vague souvenir d'avoir entendu Goss ou un autre de ses amis adeptes de Sherlock Holmes mentionner qu'une étude en rouge, le premier roman ou la première nouvelle, il ne savait plus très bien, était parue dès 1887, suivie par le signe des 4 ou le signe des 5, quelque chose comme ça, dans le Lippincott's Magazine en 1889. Goss lui avait dit qu'un livre était sorti l'année suivante. Ce n'était qu'après ses premières publications que Sherlock Holmes avait commencé à apparaître régulièrement dans le Strand. Un Jan Sigurdsson Sigerson dérangé aurait donc pu entendre parler du détective tant en Angleterre que sur le continent. Plus tard, James se souviendrait vaguement d'une pâtisserie servie au dessert, mais s'agissait-il d'un gâteau, d'une tarte ou d'une omelette norvégienne, il l'ignorait. Il ne savait pas non plus s'il y avait goûté. Les hommes se retrouvèrent dans l'impressionnant bureau de John Hay. Après en avoir discuté, Clara Hay, Madame Volbeck et sa fille avaient décidé que les images de haut sommet froid ne les intéressaient guère. Le cognac fut servi dans le bureau. Les domestiques avaient déjà installé un écran et allumé la lanterne magique louée par Sigerson. Hay, King, Sigerson, l'émissaire Volbeck et James prirent place dans les profonds fauteuils et canapés de cuir. James était tellement ébranlé qu'il but la moitié de son cognac sans prendre le temps de l'aérer ou d'en inhaler les parfums. Les domestiques silencieux tirèrent les stores et sortirent de la pièce. Sigerson alluma la lampe du projecteur et un rectangle de lumière illumina l'écran carré installé devant un mur de livres.
« Je n'ai apporté qu'un nombre réduit de mes plaques de verre », annonça Jan Sigerson. « Il n'est guère de pire crime que d'ennuyer son public. »«
L'ennuyer avec des images du Tibet et des sommets himalayens !»
s'écria Clarence King.
« Impossible !»
Clara va regretter d'avoir raté la projection et en réclamera peut-être une autre,
renchérit Hay.
Je serai ravi de m'exécuter,
dit Sigerson, inclinant le buste en un bref salut à la Scandinave.
Cette première image montre notre approche des montagnes himalayennes dans le nord du Sikkim.
Une image remplit l'écran.
Mon Dieu !
S'exclama King.
Les petits points que l'on voit derrière la moraine, là, ce sont des hommes et des mules.
Des hommes, des mules et des poneys tibétains, oui,
répondit Sigerson.
Cela donne une idée des proportions stupéfiantes de la chaîne himalayenne,
déclara M. Volbeck.
Les Alpes, les montagnes rocheuses ressemblent à des taupinières en comparaison,
dit King. Voici le Djelepla dont nous parlions tout à l'heure, continua Sigerson. La signifie col en tibétain. Une nouvelle image montra une file de petits poneys et d'hommes lourdement chargés, environ une vingtaine, traversant un champ de roches bordé de chaque côté de pentes enneigées presque verticales.
Ça m'a paru impressionnant sur le moment, mais le col ne culminait qu'à 4260 mètres.
L'image changea. La pièce se remplit de l'odeur du combustible du projecteur.
Voici le Tangla, dit Sigerson. Le dernier passage avant le royaume du Tibet interdit. Le Tangla, qui signifie col dégagé, présentait plus de difficultés puisqu'il est exposé à des avalanches même en automne, saison où mon petit groupe a tenté de le franchir. Un sévère blizzard soufflait à son point culminant, à plus de 4570 mètres. Vous voyez que les poneys et nous étions littéralement couverts de givre.
Ces photographies n'ont pas été prises par Sigerson, songea James. Il est entré en leur possession Dieu sait comment et les a fait passer pour siennes. Mais on y voit les Européens et les Tibétains seulement de loin. Impossible d'y reconnaître le prétendu Sigerson. La photo suivante était un gros plan de Sigerson en tenue rembourrée, la moustache et les sourcils couverts de glace, montant un des poneys. Derrière lui, flou mais réel, on discernait la piste qui descendait du col vers une vallée d'altitude entourée d'une multitude de pics géants.
Le poney tibétain est une petite créature très résistante, expliquait Sigerson. Et j'insiste sur ces deux adjectifs. Comme vous pouvez le voir, mes bottes raclaient le sol en permanence. Quand ma monture essayait de m'emmener là où je ne voulais pas aller, je n'avais qu'à me lever et la laisser partir à sa guise. À d'autres moments, si je ne voulais pas que le poney n'en fasse qu'à sa tête, j'attrapais l'inconfortable selle en bois et soulevais la bête jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur la direction.
La photo suivante montrait des palmiers dans des pots géants sur une terrasse et Sigerson en compagnie d'un homme blond beaucoup plus jeune que lui. On apercevait des femmes en sari à l'arrière-plan.
« Sven Edin ?»
s'écria Monsieur Elmer Halvorsen Volbeck.
Oui, désolé, s'excusa Sigerson. Cette image n'est pas à sa place. J'ai demandé à une connaissance de prendre cette photo à Bombay quand je m'y suis arrêté pour voir Sven Anders Edin.
Pouvons-nous savoir qui est ce Monsieur Edin ?
Demanda Clarence King, se levant pour aller se resservir un cognac.
Oh, Monsieur Edin est l'un des jeunes explorateurs et alpinistes scandinaves les plus prometteurs,
répondit Monsieur Volbeck.
À 28 ans seulement, il laisse déjà espérer de grands espoirs à venir. À Bombay, Sven m'a raconté que sa vocation lui était venue à 15 ans,
dit Sigerson, s'écartant de la chaleur montant de la cheminée du projecteur.
Il a été témoin du retour triomphal du grand explorateur de l'Arctique, Adolf Erik Nordenskjöld, et a décidé sur le champ de sa future profession.
Je suis surpris que le jeune Edin n'ait pas franchi l'école avec vous pour entrer au Népal, monsieur Sigerson,
fit remarquer Clarence King. Sigerson hocha la tête.
Lors de ma visite à Bombay, Edin souffrait d'une grave crise de paludisme. Mais cet automne, il devrait être embarqué dans sa première grande aventure. Une expédition de plusieurs années en Asie centrale.
La plaque de verre crissa dans le mécanisme et une autre image apparut sur l'écran. Les hommes présents dans la pièce furent dûment impressionnés.
Le Potala, la résidence du Dalai Lama à Lhasa, au centre du Tibet,
expliqua Sigerson. Henry James s'efforça de prendre la mesure de ce palais. ces points de couleur safran au pied des marches dorées étaient-ils des êtres humains? Comme s'il lisait dans ses pensées, Sigerson dit
« Oui, la taille du temple du Potala est difficile à appréhender, surtout comparée au reste de Lhasa. De pauvres masures en bois et en terre, d'innombrables ruelles étroites jonchées de carcasses de chiens et d'ordures innommables. Et, surplombant tout ça, ce palais. Pour vous donner une idée de ses proportions, tout le Parlement britannique n'occuperait que le tiers inférieur du Potala. Et Big Ben arriverait qu'en haut de l'escalier. Les temples et les résidences des lamas occupent les niveaux supérieurs de la structure.
Je ne vois pas comment vous avez fait, Monsieur Sigerson,
s'interrogea Clarence King.
Vraiment, ça me dépasse.
Fait quoi, Monsieur King?
Comment êtes-vous entré au Tibet et êtes allé jusqu'à Lhasa?
Des dizaines d'Européens ont essayé. Aucun n'a réussi.
Vous n'avez sûrement pas pu vous déguiser en pèlerin tibétain, comme l'ont fait tant de nos explorateurs, allant jusqu'à se raser le crâne et porter des tuniques safran. Les autorités tibétaines les ont toujours démasqués. Et vous êtes beaucoup trop grand pour passer pour un tibétain.
Sigerson sourit.
Je ne me suis pas déguisé. J'ai simplement dit au shérif, au seigneur de guerre, aux soldats et aux gardiens du palais que j'ai croisés que j'étais un pèlerin.
Et les compagnons de voyage avec qui vous avez passé les hauts cols sont également arrivés à Lhasa?
Non, ils ont tous été éconduits près de la frontière.
Je ne comprends pas,
répéta King.
Nous, les Norvégiens, sommes un peuple très déterminé, suggéra l'émissaire Volbeck.
La dernière image remplit l'écran. Prise de loin, elle montrait Sigerson assis sur un petit rocher dans une cour en train de parler à un jeune homme en robe safran. Il avait la peau mate et le crâne rasé, à l'exception d'une mèche retenue en chignon, et il tournait le dos à l'appareil photo.
« Le 13e Dalai Lama », précisa Sigerson. Il avait 16 ans quand on m'a accordé plusieurs audiences avec lui durant l'hiver 1891-1892. Ces audiences étaient en honneur à plus d'un titre, puisque sa sainteté se trouvait isolée loin du Potala pour recevoir un enseignement poussé et rigoureux visant à la préparer au rôle qu'elle devra bientôt assumer.
J'ai lu que la plupart des jeunes Dalai Lama ne vivaient pas assez vieux pour pouvoir assumer un pouvoir temporel,
dit John Hay.
C'est exact, confirma Sigerson. Un certain nombre de ses prédécesseurs sont morts prématurément, et l'on soupçonne que plusieurs ont été assassinés par leurs régents qui ont tendance à s'accrocher au pouvoir.
Sainte Mère de Dieu,
murmura King.
L'un des rares concepts religieux que les bouddhistes tibétains ne reconnaissent sous aucune forme,
dit Sigerson sans ironie apparente.
Pouvons-nous vous demander de quoi vous avez discuté avec le 13e Dalai Lama?
Demanda timidement Hay.
De la nature de la réalité,
répondit Jan Sigerson Sigurdsson.
La famille Volbeck fut la première à prendre congé. Des poignées de main furent échangées dans le grand vestibule au mur d'acajou. Les hôtes furent remerciés pour cette merveilleuse soirée. Quand Clarence King demanda à un domestique d'aller lui chercher sa cape, son chapeau et sa canne, Sigerson surprit James, et les autres, sembla-t-il, en demandant «
Pourrais-je vous parler un instant, messieurs, dans le bureau de Monsieur Hay ?»
Il faisait encore très chaud dans la pièce imprégnée de l'odeur de la lumière oxydrique, bien que les domestiques aient déjà retiré l'écran et l'imposant projecteur.
Je ne vais pas pouvoir rester longtemps, grommela King. Je dois me rendre à New York demain avant de partir au Mexique et
ça ne prendra pas plus d'une minute, messieurs,
assura Sigerson. Il referma la porte du bureau comme s'il était chez lui, puis d'une voix que James ne lui avait jamais entendue, il déclara
« Je dois vous parler à tous demain à 10h. »
Si ce n'était pas un ordre formel, ça y ressemblait beaucoup.
« Monsieur Hay, puis-je abuser une dernière fois de votre générosité en vous demandant la permission de tenir cette réunion dans votre bureau ?»«
Lundi, je dois... Eh bien, d'accord, si elle est brève. »«
Elle le sera, » confirma Sigerson.
« Impossible, » dit Clarence King. Je dois prendre le train de midi pour New York et j'ai plusieurs... »
Monsieur King, coupa Sigerson, je ne vous demanderai pas de revenir si ce n'était pas de la plus haute importance.
Une question de vie ou de mort, serais-je tenté d'ajouter. Et cela concerne votre ami, Monsieur Henry Adams.
Hay et King échangèrent un regard, et James put presque imaginer l'échange quasi télépathique entre les deux amis.
Bon sang, mon vieux !
Aboya King.
N'en faites pas un mystère si cela concerne Adams ! Dites-nous tout de suite pourquoi vous nous avez réunis ici !
Je suis désolé, mais ce doit être demain matin à 10h, ici même. J'ai cru comprendre que Madame Hay sera absente de la maison pendant la plus grande partie de la journée, de sorte que nous ne serons pas dérangés.
Pouvez-vous me promettre solennellement que vous serez là ?
Moi aussi, j'avais le projet de...
commença Henry James qui s'interrompit sous l'intensité du regard d'aigle de Sigerson. Le Norvégien était fou allié, de toute évidence, et James jugea plus prudent de jouer le jeu comme les autres, plutôt que de devenir l'unique objet de l'attention du dément. John Hay, Henry James et Clarence King promirent d'être là. King n'avait pas l'air ravi.
Merci, dit Jan Sigerson.
Et il ouvrit la porte du bureau comme s'il les relâchait, du moins pour un temps.